Bonjour et bienvenue sur Radio Picasso. Nous vous présentons la radio avec Kailina, Florian, Lison et Marius au micro. Nous sommes des élèves en terminale générale au lycée Aragon Picasso. Et nous recevons aujourd'hui Madame Rioux, ici présente, donc maîtresse de conférences en linguistique et en interaction sociale de l'université Lyon 2. Madame Rioux était aujourd'hui dans le cadre du dispositif Déclic à Aragon Picasso pour nous présenter ce qu'elle fait. Bonjour Madame Rioux, est-ce que ça va ?
Bonjour, oui ça va très bien, merci pour votre invitation.
Avec plaisir. Madame Rioux, quel genre d'élève étiez-vous au lycée avant ?
Je ne m'étais pas préparée à cette question. Quel genre d'élève j'étais ? Timide, sérieuse et qui ne parlait à personne ?
Vous étiez plutôt une élève timide. Est-ce que ça a pu influencer sur vos résultats de manière positive ?
Oui, parce que du coup, ça me conduisait à beaucoup travailler. Mais par contre, je ne participais pas du tout en classe. Et donc, c'est un peu l'ironie de l'histoire que j'ai suivi des études de langue. Et, voilà. Mais par exemple, en cours d'anglais, je ne prenais jamais la parole.
Et alors, comment est-ce que vous avez choisi votre orientation ?
Je ne me souviens pas hyper clairement comment ça s'est fait. Il n'y a pas eu un jour où j'ai eu un déclic et j'ai décidé que j'allais faire ça. C'est venu petit à petit, mais seulement pendant l'année de terminale. Je dirais à peu près à la moitié de l'année. Je savais que je voulais aller à l'université, mais je ne savais pas exactement quoi. Et c'est en allant voir sur les sites internet de différentes universités que j'ai regardé les détails des formations, que j'ai vu les cours qui m'intéressaient et le choix a été fait comme ça.
Donc, pour revenir à vos études, quelle étude avez-vous fait après le bac, genre post-bac
J'ai fait une licence d'anglais qui s'appelle LLCER, donc c'est pour langue, littérature, culture étrangère et régionale. Donc ça veut dire, dans le cadre de ce type de licence de langue, mais ça pourrait être une autre langue, il y a des licences LLCER en espagnol, en arabe, en chinois, etc. Ça veut dire étudier de la littérature dans cette langue de travail, donc par exemple pour moi la littérature des pays anglophones. Étudier l'histoire et la civilisation de ces pays, donc ça veut dire des cours sur l'histoire des États-Unis, du Royaume-Uni, de l'Irlande, etc. Et la troisième grosse partie, c'est langue, linguistique, traduction. Et ça, c'est les cours qui m'ont le plus intéressé, donc c'est décrire la langue anglaise, comment elle fonctionne et comprendre quelle est sa structure.
Et quel choix s'offrez-vous à vous, du coup, à l'issue de votre LLCER ?
Ça peut être plein d'orientations différentes. Y a des personnes qui se dirigent vers l'enseignement, d'autres vers la traduction, des métiers de la culture. Enfin, il y a plein de choses différentes. Mais moi, dès la deuxième année de licence, je savais que je voulais faire de la recherche. Donc du coup, je savais qu'il fallait suivre tout le cursus universitaire. Donc ça veut dire enchaîner sur un master du même type, donc LLCER anglais, et ensuite faire un doctorat.
Quels sont... vos souvenirs, vos meilleurs moments passés durant votre formation ?
J'étais passionnée tout de suite par les cours. J'ai trouvé ça vraiment extraordinairement intéressant et beaucoup plus qu'au lycée. J'avais pas l'impression de m'ennuyer quand j'étais au lycée, mais une fois arrivée à l'université, de pouvoir assister à des cours beaucoup plus spécialisés, c'était vraiment extraordinaire. Et surtout le fait qu'une partie de ces cours avait lieu en anglais. Donc au départ c'était un petit peu difficile parce que j'avais l'impression de bien parler en anglais en sortant du lycée et j'ai réalisé qu'en fait pas tellement, mais qu'il y avait un gros travail à faire pour être capable de vraiment suivre un cours en anglais, prendre des notes en anglais, lire des œuvres littéraires en anglais beaucoup par année. Mais en fait on progresse très très vite. Y a une charge de travail assez importante, mais je me souviens surtout d'être passionnée de toutes ces nouvelles choses à découvrir et à apprendre.
Et grâce à la LCER, est-ce que vous avez eu l'opportunité de faire des séjours à l'étranger ?
Oui, j'ai fait une année de mon parcours en échange international, donc c'est-à-dire que quand je suis arrivée en master, au lieu de passer ma première année de master dans mon université d'origine, je suis partie en échange aux États-Unis pendant une année universitaire. Donc ça m'a permis de valider mon master dans l'université en France, mais en fait de suivre des cours aux États-Unis. Donc c'était plus ou moins le même style de cours que j'aurais suivi en master en France. Mais donc aux États-Unis, je suis partie en Californie pendant toute l'année universitaire.
Et qu'est-ce que vous avez retenu de ce voyage aux États-Unis pendant un an ?
C'était une expérience extraordinaire de découvrir comment l'enseignement se fait dans un autre pays. C'est tout à fait notre expérience en tant qu'étudiant. C'est pas du tout C'est pas du tout la même expérience. Aux États-Unis, par exemple, les étudiants participent beaucoup plus, sont beaucoup plus actifs. Ça donne des formats de cours beaucoup plus participatifs, avec beaucoup moins de cours dans la semaine. Par exemple, sur le premier trimestre, j'avais juste deux cours différents. Sauf que pour un cours, un peu comme au lycée, y avait trois séances par semaine. Et d'une séance à l'autre, il y avait des devoirs à rendre ou des lectures à faire. Mais c'était extrêmement stimulant parce qu'ils utilisent beaucoup l'apprentissage par résolution de problèmes. Donc par exemple, pour un cours, on avait, à la fin de chaque cours, on avait un problème linguistique à résoudre. Il fallait trouver la solution et la prouver avant le cours suivant. Donc c'était un peu comme une énigme et j'ai beaucoup aimé ce fonctionnement.
Du coup, vous avez préféré l'enseignement américain que celui de France ?
C'est assez complémentaire, donc c'est pas tellement que j'ai préféré, mais que j'ai adoré vivre une expérience différente.
Entre la vie française, la culture française, et la vie américaine et sa culture, si la différence était si drastique que ça, si c'était un choc ou au final c'était assez similaire ?
Oui, il y a eu un choc culturel, mais c'est assez pernicieux, je ne m'en suis pas rendu compte tout de suite. Je suis arrivée aux États-Unis en imaginant que c'est une culture assez similaire de la nôtre, et donc du coup je ne me suis pas préparée à ce qu'il y ait des différences culturelles. Donc elles me sont un peu tombées dessus au fur et à mesure des mois qui passaient, et c'est vraiment au bout de plusieurs mois sur place que je me suis rendu compte qu'il fallait que j'adapte mon fonctionnement et que je n'avais pas compris des choses importantes. Notamment sur la façon de gérer la politesse ou les relations sociales, ou la façon de créer des amitiés. Par exemple, c'est un peu le cliché sur les Américains, ils sont toujours très enthousiastes et très chaleureux. Et pour moi, c'était un signal que, par exemple, je me faisais des nouveaux amis. Et je n'avais pas compris qu'en fait, c'est juste une façon d'être poli. Être ami, ça prend autant de temps là-bas qu'ici. Et ce n'est pas parce que quelqu'un est très chaleureux tout de suite que ça veut dire qu'on est proche. Et donc, il fallait que je réévalue ma façon d'interpréter tous les signaux sociaux, en fait. Donc oui, il y avait quand même un choc culturel. Et après, il y a un contre-choc culturel quand on revient en France et qu'on revient dans son environnement habituel et qu'on peut être nostalgique de ce qu'on a vécu à l'étranger ou au contraire, qu'on est content de retrouver ici. Ouais, donc il y a double choc culturel.
Et à votre retour en France, qu'avez-vous décidé de faire ?
J'avais déjà décidé longtemps à l'avance, puisque dès ma deuxième année de licence, je savais que je voulais être enseignant-chercheur. Et donc, j'avais demandé à une enseignante dans un de mes cours, qu'est-ce qu'il faut faire pour faire votre métier ? Et donc, elle m'avait dit, licence, séjour à l'étranger, ensuite master, et ensuite, il faut passer un concours d'enseignement, CAPES ou agrégation. Ce sont des concours pour enseigner dans le secondaire, en collège-lycée, mais en fait, ils sont utilisés à l'université pour recruter les futurs enseignants-chercheurs. Et donc, du coup, c'est un peu un passage obligé dans les disciplines comme l'anglais où il y a un CAPES ou une agrégation. Donc, après le master, j'ai passé ce concours-là et ensuite doctorat.
Et quel a été votre sujet de thèse pour votre doctorat ?
Alors, j'ai travaillé sur les conversations tout à fait ordinaires que peuvent avoir des amis ou des membres d'une même famille en discutant sur des sujets vraiment tout à fait banals comme parler de son chien, de sa voiture, d'aller au sport, enfin qu'importe. Et j'analyse la façon dont ces conversations sont structurées et plus particulièrement comment on arrive à signaler qu'on est en train de changer de sujet de conversation. Comment les autres personnes comprennent que c'est ça qui est en train de se passer et soit sont d'accord pour parler maintenant de ce nouveau sujet de conversation, soit résistent et préfèrent rester sur le sujet de conversation précédent ou au contraire carrément un autre. Donc j'ai analysé tous ces petits signaux dont on ne se rend pas forcément compte parce qu'on ne dit pas explicitement « bon maintenant je voudrais qu'on parle de ça ». Enfin ça arrive mais c'est relativement rare. En fait on utilise d'autres types de signaux comme poser des questions, ou utiliser des petits mots, donc c'était en anglais, donc utiliser des mots comme « well »,« anyway » ou « you know », ou par exemple utiliser l'intonation. Et j'ai comparé des conversations comme ça avec des conversations dans lesquelles l'un des participants est atteint de schizophrénie, parce que c'est un cas de figure où il a été documenté par d'autres scientifiques que souvent les personnes qui sont schizophrènes ont des problèmes justement pour gérer les conversations et notamment introduire un nouveau sujet de conversation. Donc l'idée, c'était de comparer des nouveaux sujets de conversation qui marchent bien et d'autres qui marchent moins bien pour mieux comprendre comment on doit formuler ça pour que ça marche bien dans une conversation.
Et je me posais la question si dans la vie de tous les jours, justement, votre recherche, vous voyez ça dans la vie de tous les jours, par exemple, qu'actuellement on est en train de parler, est-ce que vous vous rendez compte qu'on va changer d'un coup de sujet ou dans une conversation avec vos parents, des amis, vous rendez compte, vous voyez ce petit tic de langage où en fait on va tout de suite changer de discussion. Genre, vous voyez venir du coup grâce à vos études?
Alors, je ne le vois pas plus venir que vous. C'est vrai que travailler sur ces sujets, ça attire l'attention sur certains des fonctionnements, donc peut-être plus que les autres personnes. Mais en fait, une conversation, ça se passe tellement vite et on interprète des signaux qui sont tellement rapides, nombreux et parfois ténus que ça peut difficilement se faire en direct. Donc en fait, analyser une conversation quand on est dedans, c'est extrêmement difficile. Moi, pour analyser une conversation, j'ai besoin de l'enregistrer, de la transcrire et ensuite de passer des heures, des jours, des semaines dessus pour voir « Ah, mais en fait, c'est ça que les gens étaient en train de faire.
Voilà. » D'accord.
Donc non, je ne suis pas en train de vous analyser.
Et comment vous est venue l'idée de lier linguiste et action sociale ?
La linguistique, c'est une discipline qui est très large. Il y a plein de façons d'étudier scientifiquement la langue, le langage ou les langues. Et se focaliser sur comment on l'utilise en interaction sociale, c'est juste un point d'entrée. Mais j'aurais pu choisir autre chose. J'aurais pu m'intéresser à, par exemple, les sons d'une langue, par exemple faire de la phonétique. J'aurais pu m'intéresser à comment on construit du sens dans la langue, ça aurait pu être de la sémantique. J'aurais pu m'intéresser à la façon dont les enfants apprennent une langue, ou quand on apprend en tant qu'adulte une langue étrangère, ou ce qui se passe dans le cerveau quand on parle ou quand on comprend. Donc ça aurait pu être plein de sous-disciplines différentes. Mais moi, je me suis intéressée aux interactions sociales parce que c'est l'emploi de la langue qu'on partage tous, quels que soient nos métiers, notre âge. Tout le monde utilise la langue dans des conversations du quotidien. C'est en fait la majorité de notre emploi de notre langue ou de nos langues maternelles. Et donc du coup, ça m'intéresse d'analyser cet ordinaire en fait.
Est-ce que durant vos recherches pour votre thèse, vous avez découvert qu'il y avait des différences entre les conversations que par exemple les Américains pouvaient avoir entre eux et les Français entre eux?
Alors moi directement non, parce que pour ma thèse j'ai travaillé uniquement sur l'anglais, mais vous avez raison, il y a des différences dans la façon de gérer une conversation en fonction de la langue et de la culture. Dans l'ensemble, les conversations sont gérées plus ou moins pareil partout dans le monde, mais il y a des petites différences tout de même. Par exemple dans la gestion de qui parle quand, donc ce qu'on appelle la gestion des tours de parole. En fonction de la langue et de la culture, le silence qui va être autorisé peut être plus ou moins long. Donc il y a des cultures, par exemple, où on va pouvoir interrompre plus facilement, où dès qu'il y a un silence, quelqu'un d'autre va prendre tout de suite la parole, alors que dans d'autres cultures, le silence va pouvoir être plus long avant que quelqu'un d'autre prenne la parole. Mais dans l'ensemble, la mécanique de la conversation, l'essentiel est partagé, quelle que soit la langue.
En quoi consiste votre recherche aujourd'hui ?
Alors actuellement et depuis plusieurs années en fait, je travaille sur les appels d'urgence. Donc c'est-à-dire si vous devez téléphoner pour demander de l'aide par exemple aux pompiers ou au SAMU. J'analyse ce type d'interaction, de conversation téléphonique pour identifier tout ce qui pose problème. Donc un problème, ça peut être un délai, ça peut être une incompréhension ou ça peut être une tension ou un conflit entre les personnes qui parlent. Donc l'appelant qui peut être vous, nous, n'importe qui. Et la personne des sapeurs-pompiers ou du SAMU qui prend les appels.
Qu'est-ce que vous pouvez apporter aux conversations que vous écoutez, en fait, vous analysez ?
Alors, les conversations sur lesquelles je travaille, elles ont lieu il y a plusieurs années déjà, parce qu'elles sont issues des archives du SAMU. Donc, pour ces conversations-là, la réponse est rien. Je ne peux rien pour les améliorer. Mais l'idée, c'est de comprendre ce qui s'est bien passé ou moins bien passé dans ces conversations-là, pour pouvoir améliorer les suivantes, c'est-à-dire comprendre qu'est-ce qu'un appelant tout à fait ordinaire comprend bien ou moins bien, ou qu'est-ce qui génère du conflit dans ces interactions, pour pouvoir proposer des formulations qui sont efficaces aux régulateurs du SAMU, donc que ce soit des assistants de régulation médicale ou des médecins urgentistes qui sont au téléphone, donc pouvoir leur pointer par exemple que cette formulation-là n'est pas comprise par beaucoup d'appelants, ou que cette formulation-là a tendance à être suivie par des conflits ou des tensions avec les appelants et que donc il faudrait l'éviter ou la remplacer par telle autre formulation.
Et en dehors du SAMU, travaillez-vous avec d'autres organismes ?
En ce moment, non. Mon travail est surtout focalisé sur les appels d'urgence, mais je travaille à la fois avec le SAMU pour des appels en français et avec l'équivalent australien du SAMU pour travailler sur des appels en anglais australien.
Et pourquoi l'Australie, enfin, pourquoi l'Australie en fait ?
C'est parce qu'à la fin de mon doctorat, bon, déjà j'étais très fatiguée parce que ça a pris 4 ans, c'était très long et c'était difficile. J'avais envie de changer d'air et donc j'ai décidé de candidater à des postes de chercheur ou d'enseignant partout dans le monde. Donc j'ai envoyé des candidatures partout, en Malaisie, en Finlande, en Suisse, aux Fidji, enfin vraiment partout. Et là où j'ai été recrutée, c'était pour travailler en Australie sur des appels d'urgence, ce que je n'avais jamais fait. Mais en fait, c'est parce que j'ai été prise dans ce qui s'appelle un post-doctorat là-bas, que un peu par hasard, je me suis retrouvée à travailler sur les appels d'urgence et j'ai continué à travailler sur cette thématique-là jusqu'à maintenant.
Comment s'est passée la vie en Australie ?
C'était une expérience qui m'a énormément plu. Je suis restée à peu près 2 ans, donc c'était pas non plus très long, mais j'ai beaucoup aimé la vie sur place. Et c'était des conditions de travail que je n'avais malheureusement jamais vraiment connues en France avant. Donc c'était vraiment très chouette de pouvoir travailler dans ce cadre-là.
Quelle part a l'informatique au sein de votre activité ?
Mon quotidien, c'est d'être moi, chez moi, à mon bureau, devant mon ordinateur quand même la plupart du temps, mis à part les jours où je fais cours et là je suis devant des étudiants à l'université ou parfois je vais au laboratoire parler avec des collègues, mais la plupart du temps je suis quand même sur un ordinateur. Et donc ça veut dire utiliser un ensemble de programmes informatiques pour la recherche, pour pouvoir faire des statistiques par exemple, pour pouvoir, dans mon cas, comme je travaille sur des données audio, ça veut dire des logiciels pour pouvoir enregistrer, monter. Donc là, par exemple, vous utilisez Audacity, mais moi, je l'utilise pour la recherche aussi.
Est-ce que vos recherches vous amènent à collaborer avec des chercheurs d'autres disciplines ?
Oui, beaucoup. Donc déjà, au sein de la linguistique, je peux être amenée à collaborer avec des chercheurs avec qui je partage la linguistique, mais pas vraiment avec les mêmes méthodologies. Donc déjà ça. Mais ça peut être aussi, dans mon cas, je travaille beaucoup avec des professionnels de santé et notamment des médecins urgentistes.
Vous avez parlé d'informatique, mais est-ce que le fait qu'il y ait de l'informatique dans votre métier, du coup, est-ce que ça vous a... Est-ce que vous avez dû avoir des formations à part par rapport à ces logiciels ou c'était indépendant ?
Oui, j'ai dû suivre pas mal de formations parce que quand j'ai commencé à faire de la recherche, je n'avais absolument... Enfin, à part le traitement de texte, je n'avais pas vraiment de compétences informatiques. Donc oui, il a fallu se former à la fois aux outils informatiques et aussi aux méthodologies qu'il y a derrière. Donc par exemple, pouvoir faire des statistiques, ça veut dire une formation en statistique pour le côté vraiment mathématique en fait. Et aussi après, savoir utiliser un programme qui va pouvoir faire des stats pour moi. Donc oui, pas mal de formations à beaucoup d'outils différents. Ou par exemple, un logiciel pour faire des analyses phonétiques. Pour analyser le son, l'intonation.
Est-ce qu'il existe dans d'autres pays des expériences similaires à celles que vous menez en mêlant linguiste et action sociale ?
Des recherches sur la linguistique en interaction sociale, oui, il y en a beaucoup. D'ailleurs, il n'y en a vraiment pas beaucoup en France, c'est plutôt à l'étranger que ça se fait. Beaucoup dans les pays anglophones, dans les pays scandinaves ou en Suisse pour le français. Par contre, sur analyser des appels d'urgence et les interactions dans les appels d'urgence, on n'est pas très nombreux dans le monde à le faire. Il y a eu des recherches qui ont été faites sur l'anglais, sur le français, pas beaucoup, un peu sur des langues scandinaves, comme par exemple le danois ou le suédois, un petit peu sur l'italien, mais c'est pas un sujet où on est très très nombreux.
Étant donné que vous n'êtes pas beaucoup en France à exercer cette profession, est-ce que vous êtes beaucoup sollicité par les organisations qui en recherchent ?
Non, je ne suis pas sollicitée par plein de demandes pour analyser des données. Au contraire, les données, il faut aller les chercher. Il faut parfois faut un labyrinthe institutionnel. Et ça peut être un peu compliqué en termes de démarche pour avoir accès à des nouvelles données. Donc, par exemple, il faut des autorisations de comités d'éthique, de la CNIL, etc. Donc les données ne viennent pas à moi, j'aimerais bien. Oui, c'est...
Pourquoi est-ce que vous avez choisi de travailler en France plutôt qu'un autre pays s'il y a si peu de demandes ?
En fait, ce n'est pas tellement une question de demande parce que, en fait, moi, en tant qu'enseignant-chercheur, mon statut, c'est d'être fonctionnaire. Donc, je suis employée par l'université pour faire à la fois de l'enseignement et de la recherche. Mais sur la partie recherche, en fait, je fais un peu ce que je veux. Donc, c'est moi qui décide sur quoi je vais travailler, sur quelles données je vais travailler. Donc quand je décide de collaborer avec, par exemple, le SAMU, c'est juste moi qui vais les voir et qui leur demande si ça les intéresserait de faire un projet ensemble et que moi, je consacre mon temps de recherche à ça. Mais ce ne sont pas mes employeurs ou c'est pas eux qui vont me... Enfin, c'est pas qu'ils vont aller venir me chercher pour m'employer à travailler sur leurs données ou sur leur thématique. C'est plus une collaboration où moi, j'utilise mon temps de recherche pour travailler avec eux.
Donc, vous parliez d'université. Est-ce que vous pouvez nous donner une idée du contenu de vos cours en linguistique à la fac ?
Oui, alors, donc je suis enseignante dans le département d'anglais. Donc ça veut dire que je donne des cours en licence d'anglais LLCER. Et notamment, je donne un cours magistral de deuxième année. Donc, cours magistral, ça veut dire que tous les étudiants qui étudient l'anglais LLCER sont dans le même amphithéâtre. C'est une centaine de personnes. Et pendant 2 heures, je leur parle de structure de la langue anglaise. Et plus particulièrement, c'est un cours de syntaxe. Ça veut dire analyser ensemble comment une phrase est construite en anglais. Les mots se suivent les uns après les autres dans la phrase, mais en fait, il y a une structure interne qui est cachée. Il y a certains mots qui en contrôlent d'autres, et ce n'est pas seulement dans quel ordre ils apparaissent dans la phrase. Donc voilà, c'est des cours où... On révise les bases de la grammaire anglaise avec les étudiants parce qu'en général, vous arrivez du lycée, vous n'avez pas fait énormément de grammaire en cours d'anglais. Donc, on fait un gros rattrapage sur ça. Et ensuite, on analyse vraiment en profondeur comment la langue anglaise fonctionne puisqu'elle fonctionne assez différemment de la langue française. Donc, on fait aussi des comparaisons. Et une autre partie des cours que je donne, c'est en master pour les étudiants qui veulent devenir professeurs d'anglais. Et qui donc prépare le concours du CAPES pour être, par exemple, enseignant en collège ou en lycée. Voilà, donc moi, je les prépare à une partie de cette épreuve pour qu'ils réussissent le concours.
Est-ce que durant vos cours, du coup, vous avez l'occasion de parler à vos étudiants de, justement, vos actions avec le SAMU, par exemple ?
Malheureusement pas beaucoup, parce que dans mon cas, mon enseignement est assez déconnecté de ma recherche. C'est pas le cas de tous mes collègues. J'ai des collègues qui ont une thématique de recherche qui est très liée à ce qu'ils enseignent. Mais dans mon cas, en fait, ça n'a pas grand-chose à voir. Donc du coup, c'est assez dissocié. Donc quand je fais de l'enseignement, je parle plutôt de grammaire anglaise. Et par contre, quand je fais ma recherche, en ce moment, je travaille plus sur le français et les données du SAMU, donc du coup ça reste assez séparé, c'est surtout pas du tout le même type de méthodologie de travail, et donc ce que je fais en recherche ne serait pas vraiment directement utile pour les étudiants à ce stade de leur travail.
Pour les étudiants en anglais, qu'est-ce qu'ils auraient comme débouché ?
Alors pour les étudiants qui suivent une formation en langue, en fait il y a deux grands types de formations en langue à l'université. Il y a les formations LLCER, celles que j'ai suivies dans lesquelles j'enseigne, où on a une langue de travail, donc par exemple l'anglais. Et ça veut dire étudier à la fois la littérature, la civilisation et la linguistique. Ça c'est surtout pour des parcours si on se destine à l'enseignement, à la recherche, des métiers qui ont un rapport avec la culture, l'édition, la traduction, l'interprétariat... la communication, ça peut être plein de choses comme ça. Et l'autre grand parcours pour les langues, c'est les filières LEA, langue étrangère appliquée, où là, on a forcément 2 langues de travail, donc par exemple anglais, espagnol. Et il y a aussi des cours qui ne sont pas seulement liés à la langue, mais ça peut être aussi des cours d'économie, de droit, de gestion. Voilà. Donc c'est plus appliqué à la vie économique. Et il y a souvent dans ces parcours LEA, il y a un stage en 3e année en entreprise et ou à l'étranger. Donc c'est des débouchés un peu différents, moins sciences humaines et sociales.
Dans quel cadre intervenez-vous aujourd'hui dans notre lycée ?
J'interviens dans le cadre de l'opération Déclic, qui est une opération de ce qu'on peut appeler la médiation scientifique, c'est-à-dire transmettre auprès du grand public, en l'occurrence vous, étudiants, élèves de lycée, ce que ça veut dire d'être chercheur, ce que ça veut dire avoir une carrière dans la recherche, à quoi ressemblent nos métiers. Donc c'est une opération, je ne me souviens plus combien on était, 6 ou 7, peut-être même 8 chercheurs de disciplines différentes. Et on a rencontré différents petits groupes d'élèves pour pouvoir leur parler de notre métier et des orientations qu'on a suivies après le lycée.
Étant donné que dans les lycées, on retrouve principalement des jeunes, est-ce que ça vous plaît d'échanger avec des jeunes pousses comme nous ?
Oui, bah en fait, mes étudiants, ils ont juste un an plus que vous, en fait, donc c'est juste vous l'année prochaine, hein, donc le public n'est pas fondamentalement différent, et j'ai choisi ce métier pour la recherche, mais aussi pour l'enseignement, donc ça fait partie de l'intérêt du métier de transmettre.
Madame Rioux, nous arrivons à la fin de cette émission, est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose ?
Non, à part merci beaucoup pour cette invitation et cette interview.
Avec grand plaisir. Eh bien, merci Madame Rioux et à bientôt à Radio Picasso.